Les vers, notamment européens, sont la cible d'une partie de la colère du monde agricole depuis quelques jours. Que leur répondez-vous ?
Ben d'abord, nous sommes surtout la cible de l'extrême droite et des partis conservateurs. Je constate que ceux qui mentionnent le Green Deal, c'est beaucoup plus eux que les agriculteurs qui dénoncent toute une série de mots graves qui affectent la profession. Mais j'entends plus le Green Deal mentionné par Jordan Bardella ou ses semblables que par les agriculteurs.
Vous êtes la cible. Qu'est-ce que vous répondez ?
D'abord, je pense qu'être la cible, ça vous permet de défendre votre projet de société et d'expliquer en fait de quoi il retourne. Maintenant, il faut évidemment être capable de l'argumenter. Mais donc ce Green Deal, qu'est-ce que c'est ? C'est l'initiative prise par l'Union européenne visant quelque part à engager l'Europe sur la transition écologique, c'est-à-dire respecter les limites biophysiques que la planète nous impose. Alors pour être très honnête, le seul volet du Green Deal qui a vraiment avancé, c'est le volet climat. Le volet biodiversité, le volet pollution, le volet ressources, tous ces volets-là sont restés largement en rade.
Ce qui concerne notamment le monde agricole.
Ah oui, évidemment. Tout ce qui touche le monde agricole n'a pas encore été touché par le Green Deal. Alors, il faudra qu'il le soit. Parce que clairement, notre modèle agricole aujourd'hui est un modèle à la fois productiviste et mercantiliste, qui est devenu un émetteur net de carbone alors qu'il devrait être un puits de carbone. Donc là, on va devoir y travailler. Mais chaque fois qu'on a voulu approcher le sujet, ça a été un mur total. Autrement dit,
notamment sur la question de la loi de protection de la nature, tout ça a été détricoté.
Complètement. Et ce fameux règlement aussi visant à réduire l'usage des pesticides, et c'est nécessaire, de 50% d'ici 2030, a été retoqué. Il n'est pas passé. Donc, quand Jordan Bardella ou les conservateurs du PPE disent tout ça, c'est la faute du Green Deal, c'est une imposture intellectuelle, puisque le Green Deal ne touche pas encore le secteur agricole.
Ça veut dire que si on suit votre raisonnement, la situation actuelle, c'est le passif des normes environnementales qu'on a déjà érigées en Europe.
Non, la situation actuelle, c'est le résultat de choix politiques qui ont coincé, qui ont enfermé les agriculteurs dans un modèle économique totalement inviable. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur, on vous impose vos prix d'achat et on vous impose vos prix de vente. Ça veut dire que vos marges sont pelliculaires. Et donc, le seul moyen de vivre décemment, c'est la course au volume. Mais pour la course au volume, il faut s'équiper, il faut s'endetter et vous vous retrouvez dans une situation inviable. Inviable, c'est pas normal qu'une profession ne soit pas en mesure d'exiger un prix décent pour son travail.
Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec ce Green Deal qui n'est pas encore là mais qui va bientôt arriver ?
Alors c'est clair que si vous rajoutez encore des contraintes supplémentaires à des gens qui ont déjà le nez juste au-dessus de l'eau, ben évidemment c'est impossible. Et
donc
il est indispensable.
Les normes seront impossibles.
Non, parce que donc on ne peut évidemment pas dire le Green Deal, on est allé trop vite ou ça va trop loin. Enfin, les problèmes liés au changement climatique, les problèmes de santé publique, je vous rappelle, la qualité de nos eaux, on en a parlé il n'y a pas si longtemps en Wallonie, la qualité de l'air, la qualité de nos terres arables sont extrêmement dégradées et ça impacte directement à la fois la santé humaine directement et la capacité de nous alimenter à l'avenir. Et donc, on va devoir agir là-dessus et je dirais que si la vitesse n'est pas bonne, c'est plutôt qu'on est trop lent, plutôt trop rapide. Donc,
est-ce
le seul moyen pour
audible,
que ce soit...
Est-ce que c'est audible ?
Je comprends
les agriculteurs. Le Premier ministre dit leurs revendications sont légitimes. Bon, tout le monde est d'accord avec eux, et en même temps, on dit on va quand même y aller, on va mettre un coup d'accélérateur.
Ah ben non, mais donc leurs revendications, c'est... J'entendais Marianne Thrill sur votre antenne il y a une semaine. Que disait-elle ? D'abord qu'on a un problème de modèle économique. Et donc, en effet, on ne peut pas faire l'impasse sur la transformation profonde du modèle économique qui permette alors aux agriculteurs de vivre économiquement décemment, de vivre correctement de leur travail. Et dans un monde où les choses sont bien organisées, nous avons besoin, en effet, de marchés agricoles qui ne sont pas biaisés, qui ne sont pas en fait capturés par les grands de l'agro-business et de la distribution. Et là, il y a des actions anti-concurrence à prendre drastiques de la part de l'Union européenne. Et par ailleurs, donc il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail et qu'en plus, ils puissent toucher des primes de la PAC en fonction des services agroécologiques qu'ils rendent à la société. Autrement dit, leur production, ils peuvent la vendre. Mais par contre, restaurer la biodiversité, restaurer les haies, c'est des choses qui ne se vendent pas. Eh bien, pour ça, ils doivent être rémunérés par la communauté. C'est pas normal que, pour pouvoir survivre aujourd'hui, les agriculteurs touchent parfois la moitié de leurs revenus de subsides. D'ailleurs, d'un point de vue de la dignité humaine, vous avez envie, quand vous faites un travail honnête, d'être payé pour votre travail
vous
et pas de recevoir l'aumône du contribuable.
On est dans un contexte électoral, élection européenne, élection nationale, même élection américaine. On va vraiment changer à court terme là ? tout ce système, toute cette organisation agricole. C'est quoi la réponse qu'on peut donner là aux barricades? Ils seront demain encore.
Eh bien, qu'il y a urgence à changer de modèle. Et la première chose, c'est de pas passer le traité de libre-échange avec le Mercosur, qui est un non-sens économique pour notre secteur agricole, mais je dirais aussi qui est un dinosaure du traité. C'est un traité du commerce international. C'est un traité qui est hérité d'une logique néolibérale à laquelle il est temps de mettre fin.
Pour bien comprendre, traité de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine, dont le Brésil, notamment.
Et l'Argentine. Des géants de l'agro-business mondial.
Forcément la question des céréales et de la viande.
Vous dites et du soja et des OGM.
Voter, ça veut dire quoi? Que pour l'instant, c'était dans le pipe. Hein,
l'Union européenne
allait signer. Il pourrait y avoir une marche arrière des pays.
Alors, je pense en tout cas que à tout le moins, le président Macron n'a aucune intention de faire ratifier ce traité avant les élections. Ça reste un mercantiliste, ça reste un néolibéral sur le plan,
plan économique. Ça passera pas en tout cas avant les élections.
Si c'était juste la Wallonie, je pense que ça serait un peu compliqué. Mais je pense ici, une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron va rencontrer Ursula von der Leyen demain, j'en suis sûr, je suis pas dans la confidence, mais ça sera pour lui dire, le traité Mercosur, tu le mets au frigo. Il va pas lui dire, tu le tues, à mon avis. Hein. Mais tu le mets au frigo, en tout cas avant les élections.
D'autres députés européens comme Benoît Lugien ont pointé l'attitude des Verts sur d'autres traités en Atlantique, notamment avec la Nouvelle-Zélande, où là vous avez signé ce traité de libre-échange.
C'est la toute première fois que les Verts votent un traité de libre-échange, et donc c'est pas qu'on est tombé sur la tête, c'est qu'il y a une différence.
Le bœuf néo-zélandais, c'est bon, mais pas
alors,
le bœuf argentin.
Le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est le premier au monde dans lequel le chapitre social et environnemental est juridiquement contraignant et donc son non-respect peut entraîner la suspension de l'accord. C'est un accord d'un nouveau type. Et par ailleurs, c'est un accord, rappelez-vous la discussion du CETA à l'époque, c'est un accord dans lequel les investisseurs, les détenteurs de capitaux, ne jouissent d'aucune protection particulière. Autrement dit, dans le cadre de ce traité-là, un investisseur n'est pas content, ben il va devant les tribunaux normaux, et il n'y a pas de tribunaux d'arbitrage, etc. Et donc, ces changements, pour nous, ont justifié le fait que, eh bien, puisqu'il y avait des changements fondamentaux dans la logique du traité, nous avons changé d'attitude là-dessus.
Philippe Lambert, ce sont quand même des exemples que cette dynamique autour du monde agricole, c'est un enjeu majeur géopolitique, en fait.
Alors,
c'est une puissance et leur marché.
Alors, oui, c'est un enjeu géopolitique, et c'est bien le problème, c'est que la logique des accords de libre-échange que l'Union européenne a poursuivi, et ça reste le cas avec le Mercosur, c'est nous voulons vendre pour les Allemands, on va dire, des biens industriels, pour les Français, des services d'épuration des eaux, etc. Les géants mondiaux du secteur sont français, et en échange, ben, il faut bien qu'on donne quelque chose, et ce quelque chose, souvent, c'est l'accès aux biens agricoles de nos partenaires au marché européen. Et donc, consciemment, ceux qui soutiennent ces traités, en fait, sacrifient l'agriculture paysanne au profit aussi des géants de l'agrobusiness européen. Regardez Lactalis, premier ou deuxième acteur mondial de la filière lait.
Européen.
C'est un acteur français, évidemment. Lactalis veut vendre sa marchandise en Chine, etc. Lactalis, l'agriculture paysanne, ils n'en ont rien à faire. Ils les écrasent, ils leur dictent le prix du lait. Mais il se fait que, souvent, les décideurs politiques préfèrent défendre l'agro-business que l'agriculture paysanne. Je n'oublierai jamais quand François Hollande, un socialiste, vient en plénière il y a quelques années, il ne nous parle pas de l'agriculture française, il nous parle des agro-industries françaises dont il est si fier. Et donc cette logique-là qui voit beaucoup de politiques, aussi bien conservateurs, libéraux que socialistes, en fait, privilégier les grands acteurs du secteur, ça c'est toujours au détriment de quelqu'un, et c'est l'agriculture paysanne.
Philippe Lambert, pour revenir quand même aux revendications des agriculteurs là, qui continuent de se mobiliser, vous dites... le Green Deal, en fait, on n'y va pas assez vite, on va pas assez loin dans la démarche notamment sociale, mais ils ne comprennent pas ça pour l'instant.
Non, de nouveau,
ils sont pointés du doigt. Donc, qu'est-ce que vous leur dites pour, à un moment donné, c'est d'atténuer leur colère?
Mais d'abord, je me mets à l'écoute, notamment de Marielle Srel, qui a priori n'est pas l'alliée la plus évidente des Verts, mais moi je l'écoute.
Tous ces jeunes là au barricade qui étaient à Dessous.
Mais même chose, je pense la plupart des agriculteurs qui sont en fait plus proches du sol que je ne le suis, hein, moi je suis né en ville, eux, ils travaillent la terre tous les jours, mais je pense que, un, ils ont compris la nécessité de du changement de notre modèle agricole, et deux, ce qu'ils nous demandent, c'est que lorsque des décisions sont prises en matière de règles environnementales, que ce soit dans un dialogue avec eux, parce que quelque part, ben, ils connaissent peut-être mieux le sujet que beaucoup de bureaucrates à Bruxelles. Et c'est ce dialogue-là qui manque. Et ça, je me réjouis que la présidente de la Commission européenne ait lancé ce dialogue stratégique avec les agriculteurs. Maintenant, la question, c'est de nouveau, qui est autour de la table? Si, évidemment, on a les représentants de l'agrobusiness qui sont autour de la table, eux, la transition écologique, ils n'en veulent pas.
Qu'est-ce qui va se passer jeudi, selon vous?
Ce qui va se passer jeudi, c'est d'abord la manifestation de la colère, et ce que j'espère, ce sera de l'écoute de la part des dirigeants européens qui seront réunis au point Schuman. Moi, c'est ce que j'espère. C'est qu'on a besoin, en tout cas, comment est-ce que je dirais, pour apaiser la colère, il faut, un, l'écoute, mais il ne faut pas simplement se contenter d'une petite tape sur l'épaule en disant « les gars, on vous comprend ». Il faut après ça un véritable dialogue. Et si, pour faire avancer la transition écologique dans le monde agricole, il faut prendre un peu plus de temps pour le dialogue, moi je suis pour. Hein.
Sinon, c'est Sinon c'est l'extrême droite qui gagnera le 9
mais
juin.
Mais oui, bien sûr que l'extrême droite instrumentalise.
Avec une commission européenne qui prendra fonction quasi climato-sceptique, ou en tout cas avec une extrême droite dans son dos qui ira saper toutes ces normes.
Écoutez, le pire n'est jamais sûr, et je continue à croire aux vertus du débat public. Aux vertus de la pédagogie, aux vertus des faits. Je rigole un peu quand j'entends l'extrême droite parce qu'ils ont un discours complètement hors sol. Alors là, eux, puisque accusés.
C'est comme... votre responsabilité en tant que vert d'aller discuter
absolument,
avec les agriculteurs
absolument.
Et de dénoncer.
Mais évidemment, et croyez-moi, moi je ne demande pas mieux. Hein.
Vous irez aux barricades jeudi au.
Bah écoutez, il était prévu que je déjeune avec Mariam Strill demain. Elle a décommandé pour des raisons évidentes et donc nous nous verrons.
Vous
mais
allez
après.
Voir les tracteurs.
Pardon
vous
Oui, mais ça, évidemment. Mais ça, évidemment, j'y serai. Mais nous nous verrons au calme après la manifestation.
Voilà, certains tracteurs qui sont déjà là depuis hier ou avant-hier dans Bruxelles, ils dorment là pour se préparer donc à cette grande manifestation
donc,
européenne.
Ils d'ailleurs peut-être dès ce soir.
Ouais, dès ce soir.
Il faut s'attendre à certains convois qui montent pendant la nuit.
On fait le point dans quelques instants.